Audrey Pinchot qui est en vacances. On a encore des nouvelles d'Audrey. Elle nous a écrit sur notre groupe à matin.
Ben oui, mais moi, je suis allée souper avec hier.
C'est vrai?
Ben oui!
As-tu encore un petit rhume?
Ben, à Toussaint.
Sa voix est un petit peu rauque à matin.
À Toussaint, mais je pense que c'était plus des restants du rhume de la semaine dernière qu'un nouveau, là.
Prendre 2-3 semaines de congé et être malade. Y a-tu quoi de plus reposant?
C'est tellement plate quand ça arrive, puis ça arrive trop souvent, puis... Surtout quand c'est des vacances d'été, on dirait que c'est pire. Ouais. Tu sais, les vacances des fêtes, t'es comme, bon, OK, là. Mais les vacances d'été, ça fait mal.
C'est ça. Moi, j'ai déjà pogné la grippe ici pour après ça m'en aller au Mexique à Cancun. Je filais pas pantoute, là.
Je filais pas pantoute.
Ça a pris comme 4-5 jours avant que je m'en remette. Puis mon voyage était déjà fini, mais au moins, je souffrais sur la plage.
Voilà.
C'est 8 degrés sur Québec pour aujourd'hui. C'est ensoleillé avec un maximum de. Maximum de 10, partiellement nuageux pour ce soir, minimum de plus 3 degrés. Demain, vendredi, journée ensoleillée avec un maximum de 10. Pour ce qui est du week-end, le topo un petit peut changer. Nuageux avec 60% de probabilité d'averse, maximum de 7 degrés. Et dimanche, ce sera une alternance de soleil et nuages avec un 60% de probabilité d'averse, maximum de plus 4 degrés. En studio avec nous, on a le plaisir de l'accueillir pour une première fois. Son nom, c'est Rachel Genet. Elle est directrice générale de la maison de thérapie pour hommes l'Arc-en-ciel. Salut Rachel.
Salut.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Tu es directrice générale de la maison de thérapie l'Arc-en-ciel depuis combien de temps?
Directrice générale, ça fait 2 ans, mais ça fait 10 ans que je suis là, par exemple.
10 ans que tu es là. Ouais. Puis qu'est-ce qui t'a amené dans ce merveilleux monde des maisons de thérapie? Qu'est-ce qui motive une personne d'aller travailler dans une maison de thérapie?
Un passé, évidemment.
Ouais.
Et aussi, moi, j'ai eu la chance, si je peux dire, d'avoir une maladie fabuleuse qui s'appelle la dyspepsie, qui fait que quand j'essayais de suivre les autres, ben j'étais pas capable, j'étais malade. Donc moi, déjà à 15-16 ans, quand je vois tout le monde qui ont consommé, puis dans le temps, c'était quand même des bonnes drogues, là, PCP et autres.
Ouais.
Moi, je ne pouvais pas. Donc, déjà là, j'ouvrais mes yeux, puis je regardais ce qui se passait, puis je me disais, il y a un problème.
OK. Mais la dyspepsie, c'est quoi ça?
C'est quoi ça?
C'est un problème d'estomac. C'est comme, au lieu d'avoir le côlon irritable, j'ai l'estomac irritable.
OK.
Ah. Donc, j'étais malade, littéralement. Je pouvais bien faire une barre, comme on dit, là. Désolée, maman, mais... Elle doit m'écouter à job. C'est ça, mais je ne pouvais pas boire.
C'est
donc,
ça.
Moi, je n'étais jamais capable d'atteindre le seuil des autres.
Ouais.
Puis je voyais. Je voyais les dommages. Je voyais mes amis 15, 16, 17 ans qui, eux autres, étaient déjà rendus très, très loin. Et moi, j'ai l'air quand même jeune, mais j'ai 33 ans. Là, donc, on parle des 2005 à 2010 environ. Puis déjà là, il n'y avait pas d'aide. Puis c'était compliqué.
Puis à cette époque-là, tes amis consommaient quoi? Tu disais du PCP, de la mescaline, ça existe-tu encore?
Non,
je pense que c'était un peu plus... un peu avant de nous entendre dans le même âge, toi puis moi.
Hey, calmez-vous!
Non, la mescaline, en fait, c'était du PCP. Là, on n'avait pas de mescaline, fait que...
OK, fait que c'était du PCP. Y avait-tu
du crack? Il y avait déjà du crack.
Y avait-tu de la cocaïne?
Je pense que oui.
Il y avait aussi au secondaire du...
Je pense que la pire chose que j'ai vue, là, c'est un gars mal filé sur de la kétamine.
Ouais, okay. La kétamine du minou.
Il ne sentait plus le visage.
C'est sûr, c'est un anesthésien.
Fait qu'il coulait, il morvait, mais il ne s'en rendait pas compte parce qu'il ne sentait pas. Fait qu'il avait juste la face pleine de morve, puis il nous parlait. Okay. Là. Ça m'avait traumatisé. Justement, j'étais au secondaire, puis c'est le chum plus vieux d'une amie qui avait consommé ça. Puis ça m'avait donc bien convaincu de jamais essayer ça.
J'avais au secondaire du buvard. Les gens offraient du buvard aux autres. Fait que c'est quoi? C'était du PCP qui était mis sur un bout de papier?
Oui,
du LSD.
Il y avait le début des pinottes aussi.
Fait qu'il y avait du stock en sacrifice. Puis toi, tu voyais ça aller, puis tu t'es dit, tiens, peut-être qu'un jour, je pourrais aider ces gens-là?
Oui.
OK.
J'aidais déjà, parce qu'il faut dire que... Moi, j'étais la plus réveillée de la gang. Fait que quand il se passait quelque chose, c'est moi qui s'en occupais. Un gars qui perd connaissance, un gars qui se fait mal, j'étais déjà là. Donc moi, j'ai continué dans cette branche-là.
T'as grandi où, hein, Rachel?
Stoneham, Lac-Saint-Charles.
Ah ouais. Puis il y avait autant de dope qu'il pouvait en avoir à Québec, sans aucun problème.
Oui, ben oui.
Ah ouais.
Ça a toujours été très... je trouve ça dommage qu'on commence à s'intéresser à la toxicomanie de Québec parce qu'on la voit, alors qu'elle a toujours été ultra présente, mais cachée.
Ouais, ben, c'est peut-être une impression, en fait. Hello, tu sais, moi, je suis né au centre-ville de Québec, fait que la dope, il y en avait bien en masse. Puis quand je parlais avec des gens de l'extérieur, ils disaient qu'il y avait des difficultés, des fois, avec certains produits. Mais toi, tu me dis, non, non, il y en avait quand même.
Mais tu sais, on peut peut-être faire un lien avec notre micro du début de l'émission où est-ce qu'on parlait de la violence conjugale en disant, il n'y a pas de visage à la violence conjugale. Ça peut arriver à une personne avec qui tu travailles, à une personnalité publique. Tu sais, autant ça peut être un agresseur, ça peut être une victime. Bien, je pense qu'il faut aussi se faire à l'idée qu'il n'y a pas de visage à la consommation. Tu sais, c'est pas juste les personnes en situation d'itinérance, c'est pas juste la ville de Montréal, c'est ici à Québec, puis c'est dans les foyers de la ville de Québec, là, des gens qui ont des jobs, des gens qui ont des enfants, des conjoints, des conjointes.
Mon billet en tant que parent, qui est un très mauvais billet, là, j'ai toujours l'impression que plus tu t'approches des grands centres, plus tu élèves tes enfants dans les grands centres, plus ils vont avoir justement le choix des bonbons. Là.
Mm-hmm.
Mais ce que tu me dis, c'est que c'est pas nécessairement ça, Rachel. OK.
Il reste quand même que toi, Rachel, avec la maison L'Arc-en-Ciel, vous êtes pratiquement sur le parvis de l'église.
Oui, ici, on est vraiment sur le parvis.
Ici, à Saint-Roch. Oui. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est très central. Il reste qu'il y a peut-être un peu plus de chances qu'il y ait de la consommation dans ce secteur-là qu'en périphérie ou pas?
Ben, oui, il y a plus de chances. Puis c'est pas nécessairement parce qu'il y en a plus. Ben, on la voit beaucoup. C'est sûr que pour le Crystal Meth, c'est une autre histoire. Mais c'est aussi parce que les refuges sont proches. Donc, quelqu'un qui est itinérant, il ne va pas aller très loin. Il ne peut pas aller très loin parce qu'il faut qu'il aille manger au café rencontre pour dîner. Il faut qu'il aille souper à l'Aubrivière. Ces gens-là ont quand même besoin de manger. Donc, ils ne vont pas s'éloigner plus qu'il faut. Il faut qu'ils aillent. S'ils veulent une place au refuge, il faut qu'ils soient proches aussi. Donc, ils vont rester un peu à la périphérie des places qui les aident.
OK. Tu as été étudier, t'as-tu fait ton cours à l'Université Laval en criminologie?
Oui, j'ai fait intervention délinquance en premier, qui est maintenant intervention en criminologie, et après ça, criminologie à l'Université Laval.
Puis, t'as-tu l'impression qu'au fil du temps, ça s'est détérioré, les soins, ou ça s'est amélioré, les soins qu'on donne aux gens qui ont des problèmes d'alcool ou encore de drogue? Depuis toutes ces années-là, ça fait 10 ans que tu es à la maison L'Arc-en-Ciel.
Ça fait 10 ans que je suis là. Je trouve que ça a toujours été difficile.
Ouais.
Surtout au niveau de nos certifications. T'sais, on nous impose beaucoup, beaucoup de normes qu'on doit faire. Puis c'est vrai, c'est important. Parce que nous, on est certifiés. On coûte vraiment moins cher que les autres. Mais chaque maison de thérapie est obligée d'avoir le même nombre d'intervenants, les mêmes diplômes. Là. Donc, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Puis c'est normal parce qu'il y a eu de l'abus comme dans tout. Mais on se fait beaucoup donner de tâches qu'on aimerait déléguer. Par exemple, en ce qui concerne les Crystal Meth, les gens vont être déconnectés. Ils vont vivre un peu dans un rêve. Puis si on l'envoie à l'hôpital, il faut prendre le temps de s'occuper de lui. Mais là, l'hôpital ne peut pas. Donc, on doit avoir des unités aussi pour s'occuper de ces gens-là, pour leur laisser le temps de revenir à eux avant de les envoyer en thérapie. Parce que moi, quelqu'un qui est déconnecté, qui est justement dissocié, je ne peux pas m'en occuper en thérapie.
Il faut que tu le laisses débosser.
Puis, il faut dire que ces gens-là, ils n'ont plus de linge. Moi, j'ai fait une thérapie 30 jours fermée. Pas de vêtements.
Donc, c'est 30 jours tenus.
C'est 30 jours avec le même kit. Mais nous, il faut qu'on leur trouve des vêtements. On ne fait pas ça, ça ne se fait pas. Mais c'est tous des petits défis qui font que quelqu'un, il faut prendre le temps de s'en occuper. Quelqu'un qui veut arrêter de consommer, il faut prendre le temps de le connaître, de dire c'est quoi que tu as pris. OK, prends 2-3 jours. Pas OK, arrête de consommer du cristal puis revois-t'en en rue. Je me suis rendu compte hier aussi pendant une entrevue que les gens ne connaissent pas l'itinérance. L'itinérance, même à Québec, c'est dangereux. Donc, c'est sûr que quelqu'un qui consomme du Crystal Meth pour rester réveillé pendant 2-3 jours en ligne, si tu es une femme, parce qu'il y en a beaucoup des femmes itinérantes aussi, tu veux pas t'endormir, tu veux pas te faire voler, tu veux pas te faire violer parce que ça l'arrive, tu veux pas te faire agresser. Donc, c'est pratique, rester réveillé. Puis ça, c'est des choses qu'on parle pas. Itinérance, c'est pas... tu peux pas t'en sortir facilement, t'as pas de téléphone. T'as pas d'argent, tu sais, les gens te chassent de où ce que t'es à chaque fois. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de problématiques.
Le profil de ces gens-là, est-ce qu'il a changé? Mettons que tu me détermines, c'est quoi le profil, là? Homme, femme, ils ont quel âge en moyenne?
Ça, avec le cristal, ça a tellement changé. Ouais. Avant, on avait nos bons vieux ivrognes, là, que je peux dire.
On le voit. Tu nous le nommes, on le voit, puis on le sent.
Oui. c'est ça, c'est nos bons vieux ivrognes. Ouais. Ils étaient là, ils faisaient pas de trouble, ils buvaient. Puis comme je vous dis, ça fait 10 ans que je suis là, puis c'était eux, puis on les connaissait.
Ouais.
Maintenant, hier, j'étais sur le parvis, puis j'essayais de trouver des gens que je connais, parce qu'en 10 ans, j'en ai vu quoi, 800, tu sais? Puis je les connais plus. puis il n'y a plus d'âge, il n'y a plus de... Parce que le cristal meth, c'est ça que ça fait, ça va les déconnecter. Ils peuvent perdre rapidement. Puis, tu sais, j'en ai un que sa maman l'a apporté là, il y a 20 ans, puis lui, je l'utilise toujours comme mon classique. On parle de réduction des méfaits, mais je me demande où la réduction des méfaits avec une drogue comme ça, qui est ultra dangereuse, puis qui peut littéralement briser quelqu'un en 2-3 puffs, parce que c'est chimique.
Mmh. C'est ça qui est arrivé à ton jeune de 20 ans?
Non, pas lui, mais sa mère l'a rentré là à cause que elle voulait l'aider.
Ouais.
Mais s'il va dans une autre place qui parle de réduction des méfaits puis qu'on lui donne une pipe à cristal, on lui réfère pas une thérapie, ça l'arrive, tu sais. Lui a eu la chance de venir nous voir, mais c'est pas tout le monde qui a cette chance-là.
Parce que là, il y a deux types d'endroits où est-ce qu'on va offrir des thérapies, de ce que je comprends. Tu me reprends, tu sais, c'est un vocabulaire que je connais pas super bien. Vous, à l'Arc-en-Ciel, vous êtes une maison où est-ce que vous faites des thérapies fermées, volontaires, en abstinence.
Donc, abstinence totale.
Pour que les gens arrêtent de consommer, il n'y aura aucune consommation chez vous.
Oui.
Mais ce qu'on favorise au niveau gouvernemental présentement, c'est des endroits de réduction de méfaits. C'est ça que tu m'expliques.
Oui.
C'est quoi la différence?
La réduction de méfaits, c'est dire on va vous accompagner dans votre consommation, c'est votre choix personnel. Et on va diminuer les risques. Donc, la réduction des méfaits, c'est la diminution du risque de consommation de la personne. J'ai connu beaucoup de gens, parce qu'à Québec, l'injection qu'on a, c'est majoritairement de la cocaïne. Quelqu'un qui s'injecte de la cocaïne, oui, tant mieux, il va avoir des seringues propres. On va lui donner des seringues propres. Puis ça, je suis vraiment pour ça. J'ai un ami qui est mort parce qu'il s'est injecté une bactérie, tu sais. Oui, on va y offrir ça, mais on n'offre pas de solution d'abstinence.
Mm-hmm.
Donc, justement, avec le cristal meth, quelqu'un, supposons vos enfants se mettent à consommer, il a essayé ça. Moi, je veux pas que quelqu'un y dise, ben, au moins ta pipe est propre. Je veux que quelqu'un y dise comment qu'on va faire pour arrêter.
Ouais, puis qu'est-ce qui l'attend s'il reste là-dessus pendant des jours et des jours et des jours? Tu sais, je regardais un article du Journal de Québec hier qui parlait du cristal meth. La grande marge de profit est juste hallucinante. Oui. C'est probablement pour ça que les gangs de rue s'embarquent dans la vente du cristal meth. Un gramme de cristal meth se vend actuellement entre 80 $ et 120 $ à Québec. Comment ça coûte le fabriquer ce 10 grammes de cristal meth? Ça coûte 10 piastres.
Ah, mon Dieu!
Tu le revends entre 80 et 120. Fait que tu comprends que c'est pas juste une mode. Là. Ça va rester là longtemps parce que c'est une dope qui fait en sorte que les gens sont accros assez rapidement puis ça coûte rien à produire.
Et ça l'agit longtemps aussi.
Cette drogue-là, tu disais, ça agit longtemps, ça fait que tu dors pas. Un cerveau qui dort pas 2-3 jours, c'est un cerveau qui finit en psychose.
Puis il faut ajouter aussi que tu dors pas, t'es dans la rue. Si tu veux dormir, t'es dans la rue. Il fait froid, là.
Mm-hmm.
J'en voyais l'année passée, moins 15, moins 20 le matin dans ces rocs, il y a du vent. Puis je me demande, y es-tu mort?
Ouais.
C'est ce qui arrive dans ces rocs en ce moment. Le monde meurt gelé, mais gelé de froid. Il tombe là, puis nous, on pose pas plus de questions que ça, je trouve.
Il n'y a plus de spot pour pouvoir aller dormir quand tu es un sans-abri à Québec?
Il y a des conditions.
Ouais.
Il y en a de plus en plus. Il y a des conditions pour aller dans un refuge. Si tu es gelé, si tu es sous, tu peux te faire refuser. Faut se présenter à l'heure. T'sais. Oui, il y en a, mais c'est pas fait pour tout le monde. Il y en a qui refusent ça aussi parce que, oui, tu dors, tu as une place au chaud, mais tu dors dans des dortoirs. Tu sais. Il y en a qui veulent rester dehors, qui ont consommé, qui ne se présentent pas. Tu sais, il faut dire aussi, l'itinérance, tu as des enjeux, il est qu'à l'heure.
Ah, ils sont déconnectés, ils sont aux fraises.
Bien, tu n'as pas de montre, tu n'as pas de téléphone, tu n'as rien, il est qu'à l'heure. Tu sais, c'est vraiment des questions de base.
On oublie ça, mais
ben, c'est ça.
C'est vrai ce que tu dis.
Ils ne savent pas, il est qu'à l'heure. Il faut qu'ils demandent à un passant, il est qu'à l'heure, on est quand, il faut que je me présente, je suis en retard, il y a du qualité. C'est vraiment, vraiment de base. Quand tu vois quelqu'un qui est dans la rue, tu te dis, cette personne-là, faut qu'on l'apprenne, faut qu'on y réapprenne les notions, si ça fait longtemps, d'hygiène, d'heure. Puis cette personne-là, la majorité du temps, elle a juste besoin de dormir puis de se sentir en sécurité. J'ai une femme que j'ai accueillie l'année passée, justement dans une situation de violence conjugale. L'homme l'a mis dehors. Elle était nue. Nu-pied, il devait faire peut-être moins 15, elle a passé devant notre ressource, puis on a dit, ben viens nous voir. Qu'est-ce que tu fais là? Donc, moi, j'y ai donné des vêtements. Elle a dit, ben là, il s'est passé telle affaire, puis elle voulait pas parler à la police. On l'a accueillie, puis elle a dit, ici, c'est le fun, je me sens en sécurité. Elle a dit, c'est mieux qu'une nuit de sommeil. Ils ont besoin de sécurité. Tu es une femme, tu t'en vas à l'Aubrivière, tu consommes, tu te sens pas nécessairement en sécurité au travers de tous ces gens-là. Tu veux une place à toi, tranquille, pas de... Ils sont épuisés.
Mais qu'est-ce qui serait le mieux? Parce que, veux pas, je regarde l'itinérance étant montée depuis des années et des années. Montréal, c'est, y a des quartiers qui ont pratiquement juste des itinérants dans la rue. Québec, on n'est pas encore rendu là, mais il y a des endroits où ces gens-là sont très, très présents parce qu'ils ont leurs ressources. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que société pour que ces gens-là puissent réintégrer la société? C'est-tu un manque d'argent? Parce qu'il y en a en Caroline, là, des organismes comme pour les aider, ces gens-là.
Ouais. Il n'y en a pas tant que ça.
Tu as l'impression qu'il n'y en a pas?
Ben non, c'est toujours les mêmes. Par exemple, moi, je prends quelqu'un dans la rue. La personne décide qu'elle arrête de consommer, elle s'en va à l'hôpital, elle fait son sevrage, est vraiment motivée, elle vient chez nous 30 jours, je la retourne à l'Aubrivière.
Après 30 jours?
Hein? Il n'y a pas de réinsertion.
Hi.
Fait que c'est comme vous envoyer faire peut-être un février sans alcool dans une sac.
Mais qu'est-ce que je peux faire?
Quelle bonne image!
Ouais.
Mais oui. Je suis maire de la ville de Québec, là, Rachel. Puis là, j'entends Rachel Genet, qui est directrice générale de la maison de thérapie pour hommes L'Arc-en-Ciel. Puis elle me dit, tu sais, moi, je les garde pendant 30 jours. J'essaie de les sevrer le plus possible, de les aider à se libérer de l'alcool, de la toxicomanie. Puis après ça, je les retourne dans la rue puis ils se ramassent à l'Aubrivière. Qu'est-ce que je pourrais faire, moi, comme maire, pour toi, pour que ces gens-là puissent être réembarqués dans le système dans lequel on est?
Un continuum de service. On doit collaborer ensemble, dire, bon, bien, cette personne-là s'en va à l'hôpital. Elle consomme du cristal meth. On connaît le cristal meth. On sait que ça va prendre beaucoup plus que 24 heures à l'hôpital. On va s'occuper d'elle. On va vous l'envoyer dans une bonne condition. Elle va faire 30 jours, puis après ça, on va être capable de dire, regarde, il y a un organisme qui va être là pour toi, que ce soit des chambres ou quelque chose comme ça, pour ta réinsertion. Là, on n'a pas de réinsertion. On en a quelques-unes. Les places sont prises parce que les gens en réinsertion restent là longtemps.
Ouais.
Mais c'est ça, il nous manque une place sécuritaire pour les renvoyer.
Un ordre logique.
Oui.
Puis là, c'est pas péjoratif, là, mais Robert Giffard, il y a plein de locaux qui sont pas occupés. On pourrait pas mettre ces gens-là temporaires avec des gens comme toi qui ont étudié en criminologie, des gens qui sont...
Des travailleurs sociaux,
Exactement, des éducateurs spécialisés.
Des parents aidants.
On pourrait pas les mettre là?
Ben oui, on pourrait.
Mais pourquoi on le fait pas? Parce que là, la désinstitutionnalisation, bon, on nous vendait ça dans les années 70 en disant que c'était la meilleure invention depuis le pain tranché. Mais moi, j'ai connu Robert Giffard de l'extérieur, bien entendu, où les gens qui pouvaient avoir des permissions de sortie le jour pouvaient aller se baigner, pouvaient se promener.
Oui.
Et après ça, le soir, avaient un endroit pour aller se coucher.
Le fameux endroit sécuritaire dont tu parlais, Rachel.
C'est ça. Puis il y a des gens qui étaient malheureusement les enfants de Duplessis, là, qui avaient des permissions de sortie et tout ça. C'est des gens qui ne pouvaient pas travailler, bien entendu, mais qui avaient un endroit pour aller dormir. Puis c'est un endroit qui est extrêmement sécuritaire. Mais là, ils ont dit, non, nous autres, on va fermer Robert Giffard, c'est la désince, puis ces gens-là vont se retrouver au travers de la société. Moi, j'ai pas de problème. Le problème étant que ces gens-là se retrouvent à la rue après quelques années. C'est d'une tristesse qui arrive, là.
Oui,
les foyers supervisés, comme ils appelaient, ça fonctionne pas.
Ça pourrait fonctionner.
Ouais.
Si on arrête de considérer la toxicomanie au sens, là, nous, dans notre organisme à nous, la toxicomanie, la dépendance, c'est une maladie. C'est pas un choix personnel. Donc, ça devient un problème de santé publique. Là, on est en train de nous dire, bien, c'est volontaire, ces gens-là veulent consommer, fait qu'on va les accompagner dans leurs décisions. Minute.
Ça, c'est le gouvernement qui dit ça.
Oui.
OK.
Connaissez-vous J'arrête, j'y gagne? On n'est pas en train de distribuer des cigarettes, là. Parce qu'il a choisi de fumer. Parce que sinon, il va fumer des mauvaises cigarettes. On offre J'arrête, j'y gagne. On a des programmes pour ça. Donc, il faudrait se rendre compte de c'est quoi notre problème de santé. Puis qu'est-ce qu'on fait pour, de A à Z, offrir un continuum de services à ces gens-là. Je suis d'accord. Puis, tu sais, je le dirais tout le temps, je suis d'accord avec la réduction des méfaits. C'est une question de santé. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là quand cette personne-là me dit « je veux arrêter ». Parce que c'est pas vrai que quelqu'un qui s'injecte adore particulièrement ça. Si on lui disait pour avoir une vie comme les autres, il apprendrait.
Est-ce que vous avez une belle collaboration de la part des services policiers?
Oui, la police, c'est pas... Ça n'a jamais été très... Le matin, ils font le ménage du parvis, là, c'est sûr.
Ouais.
Mais j'ai jamais eu de problème avec la police, là, même dans le temps que j'acceptais du carcéral. C'est sûr que peut-être que les gens dans la rue vous diraient le contraire.
Ouais.
Mais tu sais, je vois pas de harcèlement ou de vraiment de violence policière quelconque.
Parce que quand on parle avec les policiers de la Ville de Québec, on nous parle des interventions au Centre-Ville de Québec, c'est 80% qui touchent la maladie mentale,
oui.
La drogue,
oui.
C'est énorme.
Ben oui.
Puis ces policiers-là sont pas formés, ils ont pas la formation que tu as ou une formation d'éducateur spécialisé pour faire affaire avec cette clientèle-là.
Moi, j'ai la formation, ça fait 10 ans que je suis là, j'ai tout pour intervenir, mais c'est de la santé mentale.
Ouais.
Tu sais, je peux même te poser les meilleures questions du monde. Si t'es dissocié, t'es dissocié. C'est ça, c'est comme... C'est comme quelqu'un de sous. T'essaies-tu d'y apprendre le sens de la vie? Tu sais, ça comme... Ben, c'est ça, tu le sais qu'il est sous. Il faut s'en occuper, mais qu'il soit plus sous. Mais pour ça, il faut que quelqu'un le prenne puis qu'il l'emmène dans un endroit pour le dessouler. Un peu comme l'Aubrivière a, là, le sevrage. Mais là, avec le cristal meth, c'est des gens qui peuvent devenir agressifs, donc on a tendance à réagir, mais c'est un effet de la substance.
Ouais. Mm-hmm.
C'est un effet de quelqu'un qui n'a pas dormi pendant 6 jours, puis qui a fait des petites siestes un peu par là, puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui le pousse avec un bâton, puis qui dit « Regarde, il faut que tu t'en ailles. » Qui pack ses enfants, puis il s'en va dans un autre trou. C'est ça qui se passe en ce moment. Puis on les comprend pas, on veut pas les comprendre, on fait juste dire « c'est ton choix de consommer. » Mais pour nous, c'est une maladie de consommer.
Les gars qui se présentent à la maison de thérapie pour hommes l'arc-en-ciel, oui. Le pourcentage de réussite, là, il y en a combien qui réussissent à sortir de cette maison de thérapie-là, puis dans quelques années, sont capables de bien fonctionner dans notre système?
Ça, c'est difficile à dire.
Ouais.
Dans le temps que j'allais en cours, ils me posaient tout le temps cette question-là devant le juge. C'est quoi une réussite?
Ouais.
Est-ce que je considère que quelqu'un qui arrête de sniffer la coke qui vend a réussi? Est-ce que je considère que quelqu'un qui arrête de consommer mais qui continue de fumer une fois de temps en temps a réussi? Nous, on considère ça comme est-ce que la personne va bien? Est-ce que la personne est capable de fonctionner? J'ai pas de pourcentage parce qu'on les revoit pas. Hein? Ouais. Ils viennent de partout au Québec. Donc, nous, on est vraiment peu cher. Donc, ça vaut la peine de passer de Gatineau puis venir ici à Québec parce que les autres thérapies, c'est quoi, 2000 $ de plus que nous?
Vous autres, vous êtes à 1700 $
Oui.
Okay.
1700.
Puis on pour veut... un mois, loger, nourri.
Oui, oui.
Donc... base volontaire, tu payes ça, puis OK, pendant 30 jours, on s'occupe de te faire lâcher ce que tu consommes.
Oui, puis on t'apprend un nouveau mode de vie aussi, ça c'est important.
Ouais.
Parce que justement, si tu sors, puis qu'on t'a juste sevré, puis qu'on t'a dit « bon, ben là, t'es en sécurité pour 30 jours », un peu comme si tu veux maigrir, ben on te met dans un centre ou qu'on contrôle ta nourriture, mais qu'on t'a pas appris à contrôler toi-même ta nourriture et quoi faire,
mm-hmm.
Nous, on t'apprend quoi faire. Donc, quelqu'un qui vient de notre centre, qui vient de Sept-Îles ou Gatineau, il va être capable, par les meetings, les mouvements anonymes, de savoir exactement quoi faire pour ne pas consommer en sortant. Ça, c'est super important. Au niveau de l'abstinence aussi, je ne me rappelle plus la question que tu m'as posée.
C'est,
je suis partie sur un autre sujet.
C'est pas grave. C'est un 30 jours fermé?
Oui.
OK. Fait que les gars, ils n'ont pas le droit de sortir pendant ce 30 jours-là.
Ah ben là, ils sortent accompagnés par un intervenant parce qu'on fait 4 meetings par semaine minimum.
OK.
Des meetings anonymes, donc cocaïnomane anonyme, alcoolique anonyme. Donc, c'est ça. Là, il y a beaucoup, mais c'est toujours supervisé. Puis nous, c'est pas pour contrôler les gars, c'est pour protéger les gars. On veut te protéger de la consommation. Si
ouais.
Tu me dis que tu t'en vas au dépanneur t'acheter des cigarettes, tu peux avoir toutes les meilleures intentions du monde, mais là-bas, quand tu vas arriver face à face avec l'alcool, peut-être que ça va être compliqué. Donc, on va le faire avec toi. On va t'accompagner dans ton désir d'arrêter de consommer pour être sûr que pendant 30 jours, tu es en sécurité.
OK. Et dans la majorité des cas, c'est difficile d'arrêter de boire?
Ah, c'est
les premiers jours doivent être un peu épouvantables.
Ben c'est terrible.
Ouais.
C'est un sevrage physique.
Ouais.
C'est difficile, ça fait mal au cerveau, au corps. Ça ressemble un peu, là, quand quelqu'un... J'avais vraiment cherché longtemps comment expliquer ça. Ça a l'air d'une peine d'amour.
Ah oui?
Filer mal, parce qu'il y en a des sevrages que il y a pas de danger physique. Par exemple, le pot ou tout ça, mais ils vont filer mal, ils vont dire « je me sens croche, j'ai de la peine ». Ils ont vraiment l'air d'être en peine d'amour d'une substance, mais c'est sûr, c'est la dopamine de leur cerveau.
Oui, parce que pendant la pandémie, on s'est tous posé la question à savoir pourquoi le gouvernement ne fermait pas les sacs. Puis les médecins et les infirmières sont sortis en disant « non, non, si vous privez un alcoolique de son alcool, ils vont tous se ramasser à l'hôpital en quelques heures. »
Oui, c'est super dangereux. C'est un des sevrages les plus dangereux, c'est celui de l'alcool.
Puis on ne penserait pas ça, hein, parce qu'on banalise puisque c'est légal, puis parce que tout le monde ou presque en consomme un petit peu ici et là, mais quand tu es habitué, quand c'est quotidien, c'est, ça peut être dangereux d'arrêter du jour au lendemain.
Oui, tu peux facilement mourir. Il y en a qui sont pris avec le Korsakov, qui est une maladie qui fait que leur corps a besoin d'alcool. L'alcool s'est rendu l'eau de leur corps. Donc, même en hôpital, ils sont obligés de leur fournir l'alcool, sinon ils vont mourir.
Puis là, pour les toxicomanes, à la pharmacie, il y a un produit qu'on leur donne, qui est une drogue aussi, mais qui n'est pas aussi nocif. Puis ils peuvent prendre ça pour se désensibiliser, pour arrêter de prendre la drogue.
La méthadone, oui.
La méthadone.
Oui, c'est un substitut. Nous, on n'en accepte pas à la maison de thérapie, okay. La méthadone, parce qu'on considère que c'est comme boire du Red Bull au lieu de faire du speed. Parce que ça te garde enchaîné quand même à la consommation.
OK.
Il faut que tu te déplaces à chaque jour aussi. Il y a des trucs techniques qui font qu'on en prend pas.
Y a-tu le pendant pour l'alcoolisme, le pendant de la méthadone pour l'alcoolisme? Y a-tu des médicaments pour ça?
Oui, mais pour sevrer.
Pour sevrer?
À long terme. Pas à long terme.
OK.
Il y en a qui sont similaires. On va prendre l'Ativan, justement, un protocole en descendant pour aider le corps à se sevrer parce que c'est super important.
Ouais.
Sinon, ils peuvent vraiment. J'en ai vu, ben, moi, ils peuvent mourir. Les gens perdent connaissance. Oui. Ouais. Perte connaissance, avoir des convulsions, beaucoup de médicaments aussi que ça fait ça. Donc, c'est super important, le sevrage, de le faire correctement. Puis juste ça, quand tu veux être abstinent, faudrait apprendre que c'est difficile, mais on va t'accompagner. Tu sais, pour l'instant, ce qu'on fait, c'est qu'on leur donne des médicaments, puis on dit, va-t'en chez toi, tu as tes activants, mais tu vas-tu boire en même temps?
Eh ouais.
Tu sais, il faudrait avoir une unité, il faudrait avoir quelque chose pour s'occuper d'eux, en considérant que tu as un problème, tu as une maladie, mais on va t'accompagner là-dedans.
On me dit que... non, j'ai des gens qui ont fait des 30 jours, là. Oui. Pour des sevrages, ils ont déjà obtenu du Librium.
Oui, Librium, oui.
Les trois premiers jours, de ce que je comprends. Et il y a une autre personne qui me mentionne un autre produit, le Campral.
OK, ça se peut. Moi, on a décidé à la Maison L'Arc-en-Ciel de ne pas s'occuper du sevrage.
OK.
Il y a d'autres maisons de thérapie qui le prennent en charge. Moi, je trouve que 30 jours, c'est court. Puis que tu as besoin de tout ton temps. Donc, puis en plus, il y a une routine à la maison thérapie. Il faut que tu te lèves le matin. Quand tu as l'impression d'avoir un gros, gros rhume, ils frissonnent, là, ils vont vraiment pas bien. Je les invite à faire ça ailleurs.
Ouais.
À chez leur mère ou quelqu'un qui peut les accompagner là-dedans pour que quand tu arrives, ben tu sues pas, là, au moins, puis tu trembles plus.
Donc, tu fais ton sevrage, puis après, tu commences ta thérapie. Fait que oui. Tu arrives dans des circonstances où est-ce que déjà tu es prêt à passer à l'action,
oui,
pour ta thérapie. C'est ça que vous, oui, demandez.
Il y a Max qui nous écrit « Salut, j'ai fait ma maison de thérapie, j'ai investi de l'argent, bien entendu, tu l'as mentionné tout à l'heure, oui, à la maison de thérapie pour hommes l'arc-en-ciel, c'est 1 700 $ pour 30 jours, c'est nourri, logé puis blanchi, c'est ce,
oui,
que tu as dit,
oui,
tout à l'heure. »
Ils font rien, on s'occupe d'eux comme des mamans.
Ah ben là, c'est intéressant, je peux y aller moi aussi.
La bouffe est bonne.
Il faudrait que tu te détoxifies du travail, toi.
J'ai toujours cherché ma mère partout. Puis là, elle est à la maison l'arc-en-ciel. Okay. Donc lui, il considère que l'argent qu'il a investi pour sa thérapie, c'est le meilleur investissement à vie qu'il a fait.
C'est sûr. 5 ans de sobriété pour Maxime.
Félicitations.
On va le dire publiquement.
C'est très, très bon. OK, donc toi, tu considères que le sevrage, là, le faut qu'il se fasse à la maison avant de se rendre à la maison de thérapie l'arc-en-ciel?
Bien, c'est l'idéal. T'sais, c'est, ouais, sûr que si... Moi, je ne fais pas de sevrage, donc je ne suis pas le sevrage, mais c'est pas tout le monde qui a un sevrage. Quelqu'un qui consomme de la cocaïne, il n'y en a pas de sevrage. Il n'y a pas de danger physique.
Ah non, OK.
Ouais, donc, il n'y a pas de danger physique. Je pensais
que c'était très, très addictif, la cocaïne, puis c'était dur de s'en départir.
C'est addictif, oui, mais ça n'a pas rapport avec un sevrage physique.
Okay.
Ils vont avoir un sevrage mental, comme je disais tantôt, l'espèce de peine d'amour.
Ouais.
Mais la peine d'amour, c'est mental. Quelqu'un qui a un sevrage d'alcool, il va plus avoir l'impression d'avoir une grosse, grosse grippe, là. Tu sais, un bon COVID, là.
Les tremblements, la, oui, fièvre.
Oui. Donc, c'est pour ça, là. Quelqu'un, c'est pas toutes les substances qui ont des sevrages. C'est important de le dire, là. Je veux pas décourager des gens, là. Mais c'est important, à l'évaluation, de les diriger vers les bonnes ressources.
OK. Puis dans le milieu de vie, à la maison l'arc-en-ciel, là, pendant ces 30 jours-là,
oui,
ils ont-tu des heures de lever? Ils ont-tu des heures de coucher? Est-ce qu'ils ont des cours oui, toute la journée?
Oui, c'est vraiment structuré. C'est une petite thérapie. Maximum 10 gars à la fois.
Oui.
Toutes des chambres simples. Je veux garder ça comme ça parce qu'on demande, par exemple, d'écrire le récit de sa vie. Écrire le récit de sa vie tout seul dans ta chambre ou avec un gars qui ronfle à côté de toi, c'est pas pareil.
Non.
Donc, nous, on veut vraiment que ça soit simple.
Les gars, ça ronfle.
Ouais, les gars, ça ronfle. Pas un gars en sevrage ou un gars, ouais, tu sais, un gars qui dort, là, puis ça fait 2-3 ans qu'il n'a pas vraiment dormi, là.
Quand t'arrives à la job, Russell, tu te dis, donc, qui a une tondeuse, là, dans sa chambre?
Mais c'est ça. Donc, on veut que ça soit le plus familial possible. Nous, on est issus du... du mouvement des alcooliques anonymes. Puis le mouvement des alcooliques anonymes, c'est une famille, hein? Donc, on les traite comme ça. On mange tout ensemble, tout en même temps. Puis c'est loin d'être un milieu qui est dangereux parce qu'ils sont tous volontaires. T'sais, moi, j'apporte mon chien, mes enfants. Tout le monde est tout le temps au travail. C'est des gens qui ont eux-mêmes famille, enfants. On mélange souvent la criminalité et la toxicomanie ou la dépendance. Mais la majorité du temps, avoir un problème de dépendance, c'est pas grand-chose. C'est pas sensationnel. C'est même plate. T'arrives chez vous, tu consommes. Il commence à avoir des conséquences. J'ai beaucoup d'employeurs aussi qui paient pour leurs employés pour une thérapie parce que c'est des bons employés, mais là, il fait des erreurs. Il boit sa job. Il ne rentre pas le lundi matin. Donc, il les envoie en thérapie.
Ouais, j'ai eu un employeur, je vais me permettre de le nommer. C'est Louis McNeil des restaurants Cosmos. Quand il y a un employé qui allait voir le patron, Louis, en disant « Salut, j'ai un problème de drogue, j'ai un problème d'alcool, je vais devoir quitter. » Ben Louis, ben souvent, les aiguillait vers les bons endroits, puis je soupçonne qu'il a déplié une coupe de 100 piastres pour aider ses employés.
C'est un beau cadeau.
Puis, tu sais, j'ai déjà entendu quelqu'un lui poser la question, tu sais, pourquoi tu fais ça? Parce que Louis avait dit, je comprends. Parce que je comprends. Puis, cet employé-là va être redevable jusqu'à la fin de tes jours, là. T'sais, si tu l'aides, là. Si tu lui dis, garde, tu vas partir pendant 30 jours, mais après ça, tu reviens avec nous sans aucun problème, va juste te guérir, ça vaut la peine, ça?
Ben oui, parce que le plus difficile, puis je comprends, c'est important pour ces gens-là, parce que moi, je les appelle les moldus, là, la société qui connaît pas la consommation, là, vont lui dire, ben arrête.
Ah, arrête. Seulement. Si c'était si facile, il y en aurait pas.
Puis c'est vrai que les gens se disent ça. Ils disent, ben t'as juste à arrêter.
Mais...
eux autres, ils comprennent pas pourquoi qu'ils le font. Fait que quand tu te fais dire t'as juste arrêté, tu te dis je suis si déphasé que ça, mais moi je suis capable d'expliquer pourquoi. Parce qu'ils ont plus d'espoir. Tu sais, quelqu'un qui est sur le parvis, là, on lui dit t'as juste arrêté le cristal meth, il va dire ouais, mais pourquoi j'arrêterais le cristal meth? J'ai pas de volonté de rien. J'ai pas d'espoir de rien.
J'ai rien d'autre.
J'ai pas d'espoir que ça aille mieux. J'ai même pas d'espoir de manger à soir. Donc pourquoi j'arrêterais ça? Nous, c'est ce qu'on fait à la maison. On leur ordonne un peu d'espoir, un espoir dans une vie meilleure. Puis ils le voient facilement dans les meetings. C'est tous des gens qui les accueillent puis qui disent « Regarde, j'avais l'air de toi, v'là 10 ans, puis regarde maintenant. T'sais, j'ai une compagnie, j'ai ici, j'ai ça. »
Qu'est-ce qu'on dit aux gens qui hésitent à aller vers les mouvements en lien avec alcoolique anonyme, narcotique anonyme, puis tout ça, puis qui disent « Ah, c'est de la religion, c'est Dieu, puis tout ça, ça me parle pas. » On n'est plus là maintenant.
Non, on n'est plus là. Moi, justement, les plus jeunes ou ceux qui sont le plus rébarbatifs là, à la notion de puissance supérieure puis de Dieu, je leur dis de biffer ça puis de mettre espoir. Nous en sommes venus à croire que l'espoir pouvait nous rendre la raison. Si je te donne ça puis que je te dis tu peux t'en sortir, tu peux aller à l'école, tu peux recommencer ta vie à zéro, là, peut-être que tu vas vouloir arrêter de consommer. Mais si tu n'as pas d'espoir, tu vas continuer. Tu n'as rien à perdre. Moi, je veux te donner quelque chose à perdre. C'est surtout ça, la grosse partie de mon travail. Donner l'espoir en quelqu'un de, si tu fais le minimum, ta vie peut être magnifique.
Tu parlais des rencontres tout à l'heure où les résidents de la thérapie fermée côtoient des gens qui ont fait la thérapie. J'imagine qu'il y en a qui vous suivent depuis des années, qui même après leur thérapie de 30 jours, vont quand même dans des meetings.
Oui, les meetings, ça devient, tu sais, ça reste des dépendants, là, fait qu'ils deviennent addictifs à bien des affaires, dont les meetings.
Des intenses, hein? Des intenses.
Ça n'a pas juste des côtés négatifs.
Mais en même temps, ces gens-là vont faire leur social.
Ben oui, c'est, tu sais, je comprends, on n'a pas ça partout. Donc, quand tu vas dans une salle puis que tu te mets à pleurer ou que tu parles de quelque chose, c'est normal. Il y a beaucoup de milieux de travail où ça n'existe pas, le personnel, où on ne peut pas parler de nos problèmes. Tu n'as pas l'occasion, tu n'as pas le temps, tu ne connais pas personne. Alors que là, tout le monde comprend la même chose. Tu n'as pas besoin d'expliquer.
Se sentir compris dans la vie, là, c'est précieux.
Oui.
Puis j'imagine que ces meetings-là, ça crée un sentiment d'appartenance, puis sentir que tu n'es pas juste la bibitte dans un monde où tout le monde est dans le même moule. T'sais, de te rendre compte qu'il y a des gens qui sont sur le même moule que toi.
Oui, puis il faut dire que les meetings, il y a vraiment une méthode. Hein? C'est 12 étapes. Donc, si quelqu'un dit, ben là, je travaille ma 6e, ma 7e, je travaille mes défauts de caractère, je travaille mes déficiences, c'est un programme de thérapie en tant que tel. Donc, tu ne vas pas juste entendre quelqu'un parler de sa consommation. Tu vas travailler des étapes, tu vas faire vraiment un gros travail personnel sur toi-même chaque jour, à la fois selon tes étapes. Il y a Al-Anon aussi, qui est pour les conjointes, pour la famille. des gens qui consomment, qui est comme ça, qui est un programme pour t'aider et pour t'améliorer dans ta situation.
Rachel Genet, pour les gens qui veulent en savoir plus sur la thérapie fermée de la maison Arc-en-Ciel, on peut s'informer à quel endroit?
Sur le site Internet. Sinon, vous pouvez appeler. On est vraiment... On veut le fraternel. Justement, on est fondé à 79 par le père Capucin et Claude Lavoie. Et lui, il voulait l'accueil chaleureux. C'est ce qu'il demandait le plus. Donc, je vous invite à téléphoner, parler directement à un intervenant.
Cool. Puis il y a plein d'auditeurs qui se sentent énormément interpellés par l'entrevue avec toi, Rachel. Puis j'en prends un, Simon, qui dit « Salut, fait vécu. » C'est con à dire, mais il faut vraiment atteindre le fond du baril avant d'adhérer à ça pour plusieurs. Et c'est souvent pour le meilleur pour la suite.
Oui.
Ça, c'est moi qui l'ai ajouté, là. Mais c'est vrai. Tu sais, quand tu dis, quand tu n'as plus d'espoir, puis tu rentres là, puis tu ressors de là avec plein d'espoir, plein de possibilités de rencontrer l'amour si tu l'as perdu pendant 10, 15, 20 ans.
Ah, ben là, je ne conseillerais pas ça en sortant de thérapie.
Avoir une job.
Dépendance affective.
Non, mais.
Allez! Des intenses!
Non, mais avoir une job, avoir un appartement, un condo, une maison, tu sais.
Avoir une routine.
Exact.
Être bien dans le moment présent, ça, c'est le plus gros.
Malgré que toutes les femmes que j'ai rencontrées dans ma vie m'ont dit qu'elles n'aimaient pas beaucoup que je sois routinier. Mais ça, c'est une autre histoire. On t'invitera pour ce sujet-là.
Bon, l'indépendance affective.
Ben oui. Un gros merci, Rachel.
Ça fait plaisir.
On avait le plaisir de jaser avec Rachel Genet, qui est directrice générale à la maison de thérapie pour hommes L'Arc-en-Ciel. On fait une courte pause. Vous avez des choses à me dire? Vous êtes nos yeux, nos oreilles sur la route, les amis. Merci de nous en informer. 418-971-1021, c'est par texto. On revient.
Ce segment d'émission, présenté par le